pour le journal.
6h-9h le samedi. L'époque.
L'époque qu'on vous raconte, explique, décrypte chaque samedi ici à 8h30 et qu'on condense cet été en 8 épisodes thématiques. Et ce samedi, on s'intéresse à nos vies numériques et connectées. Le digital omniprésent dans nos quotidiens pour travailler, se divertir, faire des démarches administratives. Mais ce qui est banal pour beaucoup peut s'avérer plus compliqué pour d'autres. C'est ce qu'on appelle l'abandonnisme. Mathieu Truffert nous en parlait en mars dernier.
À l'origine, l'abandonnisme est un terme médical. C'est une névrose qui désigne une personne souffrant de la peur, précisément d'être abandonnée par ses parents ou par ses proches. Transposé dans le monde numérique, l'abandonniste, c'est celui qui renonce, par choix, par incompétence ou par lassitude, à entreprendre une démarche qui implique l'utilisation d'un ordinateur. Ça peut être payer une facture, s'inscrire à un cours ou évidemment, s'étant prendre rendez-vous pour un vaccin. Il peut s'agir vraiment de gestes tout à fait banals. Typiquement, l'abandonniste télécharge l'application du CFF, il patauge un moment dans les menus, puis, vaguement agacé, il descend à la gare et il fait la file au guichet.
Et qui sont-ils, Mathieu, ces abandonnistes ?
Alors, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît, Yann, parce qu'on pense volontiers aux personnes âgées. Elles sont plus nombreuses que la moyenne, c'est vrai, même si, selon Pro Senectute, la situation évolue vite. Beaucoup de 65-80 ans sont aujourd'hui compétents avec le numérique et donc pas davantage concernés que le reste de la population. Alors, l'abandonnisme touche aussi des catégories de la population qu'on n'a longtemps pas su identifier, des gens équipés et connectés, mais il ne suffit pas de poster sur les réseaux des photos de vacances à la plage ou de Médor devant le canapé du salon pour être capable d'entreprendre une démarche administrative, même toute simple. Beaucoup de jeunes, parce qu'ils passent des heures sur leur smartphone, souvent sur des jeux, créent l'illusion. Or, ils sont désemparés à l'idée d'écrire un mail ou de remplir une postulation en ligne. C'est un paradoxe, mais les enfants du numérique sont aussi des candidats à l'abandonnisme numérique. Il ne suffit pas d'avoir les outils, il faut savoir les utiliser.
Et est-ce qu'on a, Mathieu, des chiffres ou des statistiques ?
Alors là encore, exercice difficile. Parce que l'abandonniste numérique ne se vante pas trop en général. Comme l'analphabète qui peine à lire ou à écrire, il est souvent dans le déni. Il sollicite des proches lorsqu'il se heurte à une difficulté. Il trouve des astuces pour contourner le problème. Il se cache volontiers. Alors il n'y a pas d'études détaillées en Suisse, mais à titre indicatif, on peut citer l'étude française commandée par le syndicat de la presse sociale qui estimait en 2018 qu'une personne sur cinq était concernée. Hommes et femmes sont égaux face au problème. Les jeunes seniors, donc 50-64 ans, sont surreprésentés avec 25% des cas. Mais il y a aussi des moins de 35 ans, comme on le disait, c'est 15% des cas. Surreprésentés aussi les citoyens peu ou pas diplômés et d'origine modeste. Les abandonnistes seraient à égalité dans les agglomérations et les zones rurales. Bref, ils sont un peu partout dans la société et de plus en plus menacés de devenir des citoyens de seconde zone.
Et pour venir en aide aux abandonnistes, il existe des endroits où l'on peut apprendre à maîtriser ses angoisses face aux outils digitaux en se familiarisant avec ces technologies. C'est le cas d'Intergène, un atelier d'entraide numérique à Lausanne ouvert aux utilisateurs débutants ou hésitants. Atelier qu'anime Emmanuelle Germont, elle est informaticienne depuis plus de 20 ans. Théo Chavaya l'a rencontrée au printemps dernier.
C'est d'offrir un espace où les gens peuvent vraiment poser leurs questions librement, sans avoir cette impression de poser la question bête, de pouvoir vraiment voir tous les aspects du numérique. Ça peut aller de la question très très pragmatique, qui est « j'ai besoin de pouvoir faire ça, c'est mon premier téléphone, c'est mon premier ordinateur » ou alors « je sais que je vais y arriver, mais j'aime mieux avoir un filet de sécurité avec un informaticien ». Puis ça peut être la personne qui a une question sur les votations, comme on l'a vu récemment, ou sur la loi sur le renseignement, l'identité électronique, tout ça, des choses qui touchent l'informatique et que les gens ne savent pas où situer.
Est-ce qu'il y a un événement ou un déclencheur qui peut inciter certaines personnes à franchir le pas et à venir ici ?
Ceux qui viennent ici, c'est systématiquement parce qu'ils ont entendu parler que ça existe. Donc ça veut dire qu'en fait, beaucoup de gens ont déjà ces questions dans leur tête. Simplement, soit ils ne savent pas où les poser, soit ils n'osent pas les poser. Ils ont tellement l'habitude d'être maternés, d'être infantilisés dans l'informatique, qu'ils finissent par laisser tomber. En plus, j'ai la chance, étant une femme, d'avoir beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles osent aussi plus facilement poser des questions à une informaticienne femme qu'à un informaticien homme. Vu que c'est une profession très masculine, où les femmes se sentent souvent très larguées, même si elles ne sont pas plus larguées que les hommes, loin de là.
Vous avez l'impression que les femmes sont plus conscientes de ce qu'elles ne savent pas en informatique que les hommes ?
Je pense que le fait que les hommes soient majoritairement informaticiens, un, donne une confiance à beaucoup d'hommes de croire qu'ils sont capables en informatique alors qu'ils ne le sont pas, et d'un autre côté, donne la conviction à beaucoup de femmes que ça ne sert à rien de demander parce qu'on lui fera « Ouais, vous inquiétez pas, ma petite dame, on va vous aider ». Cette crainte ou cet énervement à ce côté infantilisant fait que les gens aiment souvent mieux venir poser des questions à une femme qu'à un homme.
De manière générale, Emmanuel Germont, dans quel domaine a-t-il plus de lacunes ou de difficultés ?
C'est la compréhension. Comment ça marche ? La question, mais pourquoi ça fait ça ? Comment fonctionne un ordinateur ? Comment fonctionne Internet ? Les gens, ils vont dans un magasin, ils achètent Internet, ils reviennent à la maison, ils ont acheté Internet. Mais ils ne savent pas ce que c'est Internet. En informatique, on n'a pas cette connaissance de base. Et du coup, c'est très difficile de prendre des décisions, que ce soit pour soi, pour les autres, ou en tant que citoyen dans une votation. Du coup, les gens subissent au lieu d'agir. Et ça, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de sexe, il n'y a rien du tout qui définit ça. Les questions, c'est pour tout le monde.
Emmanuel Germont, une fois que les bases sont assimilées, qu'une certaine autonomie est acquise, j'imagine que ça doit générer aussi beaucoup de confiance chez ces personnes une fois qu'elles ressortent.
Ça, c'est l'autre partie d'Intergène que j'aime beaucoup, c'est que quand les gens ont commencé à apprendre quelque chose, ils l'expliquent aux autres. Donc ils reviennent à Intergène parce qu'ils peuvent tout d'un coup expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est très encourageant pour eux, c'est très encourageant pour les autres aussi parce qu'ils se disent « Ah, vous êtes informaticien aussi ? Non, moi je suis juste venu à Intergène 2-3 fois. » Cette conversation-là est très agréable à entendre pour tout le monde. Parce qu'on se sent mis en confiance, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, et puis qu'on peut aussi aider les autres.
Mais est-ce que vous avez déjà dû abandonner puis vous dire, ben, avec cette personne-là, je n'arriverai pas à transmettre ce savoir ?
Le souvenir que j'ai eu des gens, entre guillemets, où il a fallu abandonner, c'était des gens chez qui, en fait, ils essayent de faire quelque chose, mais ils ne veulent pas faire les étapes pour y arriver. Donc c'est tout d'un coup de dire, ok, on va trouver un autre moyen de le faire. Donc il y a les gens qui, eux, abandonnent, c'est rare, ou alors ils sont arrivés jusque là où ils voulaient aller, et le reste, ça leur est égal. Donc du coup, ils ne reviennent pas parce que ça leur est égal. Mais abandonner, non.
Actuellement, est-ce qu'il y a une tendance ? Vos élèves, ils ont de plus en plus de bases solides avec des demandes toujours plus pointues, ou est-ce qu'au contraire, leurs connaissances sont toujours moindres ? Qu'est-ce que vous remarquez ?
Qu'il y a beaucoup de préjugés quant à savoir qui a des compétences en informatique ou pas. Les gens qui savent utiliser pensent qu'ils sont bons en informatique, alors que c'est très souvent pas le cas, c'est même parfois les pires dans leurs habitudes. Il y a beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'abandon. Oui, ça sert à rien, de toute façon, je vais jamais arriver à comprendre. C'est vraiment ce côté résigné, fatigué, frustré. Et quand on sort de la frustration, c'est justement à ce moment-là qu'on vient poser des questions.
Et contrairement aux préjugés, les jeunes aussi peuvent se sentir largués en matière de numérique. L'école à la maison pendant le Covid l'a rappelé. Des parents et des élèves qui se sont retrouvés parfois démunis face à cette école en ligne, ces cours à distance lors du semi-confinement au printemps 2020. C'était le cas dans le canton de Vaud, comme l'expliquait à Aurélie Cutat Marie-Pierre Fannemullen, présidente de l'APE, la fêtière qui regroupe 40 groupements de parents d'élèves.
C'est clair qu'on a vu que les familles n'étaient pas prêtes. Et en ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les problèmes, ils étaient à plusieurs niveaux. C'est que d'abord, il n'y avait pas le matériel, simplement. Il faut se dire que les enfants en primaire, par exemple, c'est pas tout à fait une chose acquise que chacun ait un ordinateur ou un cellphone ou une imprimante à la maison ou un scan pour renvoyer des documents. Donc ça a été une vraie problématique, même si l'école a essayé de pallier à ça en mettant du matériel à disposition. Et puis l'autre problème aussi, c'est que vous avez beau avoir du matériel, vos enfants sont peut-être pas, ils peuvent peut-être jouer à Minecraft sur l'ordi, mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent écrire un mail, quoi. Donc en fait, il faut de l'assistance pour ces enfants. Vous pouvez pas les laisser face à un ordinateur et les laisser se débrouiller. Or, les parents, ils étaient quand même en télétravail aussi pour une partie. Donc vous voyez, c'est tout ça qui a créé, qui a généré des problèmes. C'est que les enfants, face au numérique, ils sont pas du, sont déjà pas autonomes par rapport au travail à domicile, mais ils sont pas du tout autonomes par rapport au numérique.
Est-ce qu'on n'a pas tendance à surestimer les capacités des jeunes en termes de numérique et à penser que tout ça c'est ok, oui, et qu'on n'a pas besoin de les encadrer ?
Oui, je pense que ça a été dans l'imaginaire collectif, c'est que dès lors que les jeunes sont sur les supports numériques, ils savent les utiliser. Et vous avez raison, pas du tout. Je pense qu'ils savent les utiliser en partie pour jouer, mais pas du tout pour travailler, par exemple. Et c'est deux apprentissages différents. Et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et c'est pas facile, parce que du coup, aller leur apprendre à utiliser Word, ça leur paraît très ennuyant quand eux, ils ont l'habitude de jouer à Minecraft toute la journée. Donc, je veux dire, franchement, c'est pas sexy, quoi.
Est-ce que qu'il n'y a pas finalement un petit gap générationnel? Numériquement, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même culture même.
Oui, je pense qu'il y a un grand gap et c'est marrant parce qu'on a eu ce gap générationnel dans les familles il y a quelque temps déjà. C'est qu'on a vu les enfants qui commençaient à être plus compétents que leurs parents sur les outils numériques. Alors maintenant, ça s'inverse un peu parce que les jeunes parents, les trentenaires aujourd'hui, ils sont parfaitement à la page. Ce que nous, enfin moi, je suis d'une génération encore précédente, mais nous, on n'a pas. Nous, on a découvert l'outil numérique, le numérique en même temps que nos enfants presque. Aujourd'hui à l'école, eh bien, on a encore toute une série d'enseignants qui n'ont pas appris à fonctionner au départ avec ça et qui se sentent eux-mêmes parfois très démunis par rapport à ces outils. Et puis c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de transmettre. Donc voilà, donc il y a quelque chose à faire évoluer de ce côté-là et puis ça va se faire forcément avec le temps, je pense.
Et ça commence à se faire dans la formation des enseignants et enseignantes. C'est le travail notamment de Julien Bugman. Il est docteur en sciences de l'éducation, professeur à la HEP Vaud. Invité de l'époque en décembre dernier, il nous donnait des pistes de solutions pour lutter contre cet électronisme scolaire.
Il y a différents chantiers qui sont actuellement prioritaires. C'est vraiment un enjeu de société aujourd'hui, lutter contre l'illettrisme numérique. On l'a dit, il y a énormément de métiers dans l'avenir qui seront concernés justement par ces usages du numérique. Il y a plusieurs chantiers. Alors par exemple, il y a tout d'abord celui de l'initiation à la science informatique, qu'on faisait peut-être pas autant auparavant. Donc comprendre comment fonctionnent les machines, quels sont les algorithmes qui sont en action lorsqu'on navigue sur Internet ou qu'on utilise tel ou tel outil. C'est vraiment le cœur de l'éducation numérique ici. Et puis il y a aussi d'autres projets autour de l'intelligence artificielle particulièrement, comprendre comment mieux apprendre, mais aussi adapter les formations aux apprenants, vraiment avoir une réaction immédiate dans ce qu'on appelle en fait l'apprentissage machine.
Il y a les écrans, il y a aussi de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle les assistants vocaux. Est-ce que ça peut être une aide aussi pour lutter contre cet illettrisme numérique, les barrières de l'écrit qu'on peut retrouver aussi quand on navigue sur un site internet? Est-ce que la voix, c'est un moyen de lutter contre cet électronisme, Julien Bugman?
Alors c'est une des pistes en effet qui est exploitée pour c'est comme voilà l'ergonomie des sites, vous venez de le dire, par exemple les sites rendent la navigation de plus en plus simple et je pense que c'est important de rendre l'accès simplifié mais aussi plus sûr par exemple quand on utilise les réseaux ou autres. Une des craintes souvent c'est d'avoir de tomber sur une fausse information, d'avoir un lien qui ne fonctionne pas ou autre, ou qui peut être dangereux. Et ça, justement, c'est un des objectifs. Et les assistants vocaux ou autres peuvent faciliter, en fait. C'est surtout ça, faciliter les accès, faciliter la navigation. Et donc, effectivement, c'est une des pistes qui est exploitée pour résoudre ces difficultés-là.
Et si certains jeunes ont du mal avec le numérique, d'autres sont comme des poissons dans l'eau devant les écrans, en particulier ceux des jeux vidéo. Mais pour apprendre à bien jouer sans tomber dans l'excès, il faut parfois passer par les bancs de l'école, comme ceux de la Noetic Academy, une école originale à Fribourg que dirige depuis 2 ans Kevin Sanders.
Alors ce projet à la base, ça fait des années qu'on y réfléchissait. C'est en fait un constat avec des joueurs, des parents, des plus jeunes, aussi des professionnels de la santé et du social qui en fait ont fait un constat qu'il y avait un manque actuellement d'encadrement dans la pratique des jeux vidéo. Et on a voulu en fait aller plus loin que uniquement l'association de gaming en fait entre potes qu'on pouvait voir avant. Et on a monté du coup ce projet.
Et comment ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce qu'on y apprend? Comment s'organisent les cours?
Alors en fait, c'est une inscription par semestre où en fait les jeunes et moins jeunes d'ailleurs viennent, on va dire, s'entraîner 2 heures par semaine dans un cours dédié. Et on a des permanences aussi de jeux libres à côté et durant les vacances, des semaines thématiques sur plusieurs sujets.
Et qui sont les profs, les coachs de cette école, de la Noetic Academy? Quels sont un peu leurs profils et leurs rôles?
Alors en fait, on a plusieurs profils. Disons qu'ils ont tous une expérience avec la pédagogie et la jeunesse, mais c'est plutôt certains des coachs qui connaissent très bien justement le jeu en question. Et on va toujours avoir un coach qui est plutôt là pour l'aspect observation, l'aspect un peu social, l'aspect aussi de gestion, peut-être aussi plus de la dynamique de groupe. Ça va plutôt être mon cas justement. Et en fait, ensemble, on va créer une synergie avec les jeunes pour essayer d'avancer ensemble.
À qui elle s'adresse, Kevin Sanders, cette école? C'est pour des geeks, comme on dit, des accros aux jeux vidéo, ou c'est plus large que ça?
En fait, ça s'adresse un peu à n'importe qui, n'importe quelle personne qui a envie maintenant de se perfectionner sur un jeu, ou même d'apprendre un peu plus les codes aussi de ce monde-là. On a un petit peu des profils aussi en termes d'âge très différents, en termes aussi de d'horizons sociaux, etc., très différents. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec le jeu, c'est que ça rapporte, ça rapproche, ça rencontre, en fait, de toute manière, on va dire des gens de plusieurs espaces de vie, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool, quoi.
Donc il y a des profils assez différents, intergénérationnels, ça va de 8 ans à 33 ans, hein, la trentaine de jeunes que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'on compte aussi des filles ?
Alors actuellement c'est un petit peu compliqué par rapport à la parité, on a une joueuse qui s'est inscrite pour ce semestre. On a monté en fait il y a pas longtemps justement un cours, on a tenté en tout cas de monter un cours en non mixité en fait exclusif pour les gameuses. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent où c'est assez difficile des fois de visibiliser justement les joueuses dans les espaces de jeu et dans la pratique aussi par rapport aux problèmes que le jeu vidéo peut poser en termes de sexisme et de misogynie.
Et sur cette question-là du sexisme dans les jeux vidéo, quelle réponse vous apportez vous à la Noétique Academy?
Alors c'est vrai que déjà la première chose qui est importante, c'est que vu qu'on a des groupes mixtes à la base mais qui sont pour l'instant composés beaucoup de joueurs, on va avoir avec eux justement des discussions sur des thématiques, que ce soit en lien avec le harcèlement sexiste, que ce soit en lien avec les comportements toxiques. On va aussi débriefer parfois de situations de jeu qui peuvent arriver où il va y avoir des comportements pas toujours adéquats. Et c'est là où c'est intéressant de déconstruire avec les jeunes ces schémas-là que eux aussi ont intégré à travers, le patriarcat de notre société. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler, discuter de ça beaucoup avec les joueurs surtout, parce que c'est eux les principaux aussi, oppresseurs ou agresseurs, peut-être inconscients, de toute la pratique et tout le monde du jeu vidéo.
Les parents dans tout ça, les parents de ces jeunes, quelle relation vous avez avec eux? Est-ce qu'ils soutiennent leurs enfants? Est-ce qu'ils sont parfois un peu dépassés, déconnectés de tout cet univers-là du gaming?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que la question des parents, elle est en même temps centrale, elle est délicate. On a un petit peu les deux profils, c'est-à-dire que ça va dépendre. On a des parents qui sont très investis dans le suivi avec leur enfant, qui vont vraiment. D'ailleurs, même des fois, c'est même d'eux que vient l'idée de s'inscrire dans nos cours. Il y a d'autres parents, par contre, qui vont prendre un peu plus de recul, qui vont laisser un petit peu l'enfant gérer sa passion ou ses intérêts de son côté. Et c'est vrai qu'on va retrouver un petit peu les deux mouvances, quoi.
Le gaming, passion de beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'aujourd'hui. D'autres lui préfèrent la lecture, oui, mais en mode écran. Bienvenue dans l'ère de BookTube, des critiques littéraires d'un nouveau genre qui partagent leur coup de cœur du moment sur YouTube, des vidéos visionnées par des dizaines de milliers d'abonnés. Et quand on parle BookTubing en Suisse, impossible de ne pas évoquer Margot Liseuse, une pionnière du genre devenue une booktubeuse très suivie. La fribourgeoise Margot Cartenou, de son vrai nom, compte aujourd'hui plus de 70 000 fans. Elle a commencé il y a 10 ans, elle avait à peine 20 ans, des débuts qu'elle racontait à Sarah Dirène.
Au début, j'étais un petit peu sceptique, je me disais « ouais, mais attends, mais c'est de l'écrit », donc je ne me voyais pas du tout me lancer dans l'aventure. Et un jour, vraiment sur un coup de tête total, je mets en équilibre mon appareil photo numérique sur une pile de livres. J'appuie sur le bouton et je présente mes derniers achats.
Comment vous choisissez vos livres ?
Alors ça a toujours été au feeling. Moi, je suis une grande lectrice depuis toujours, j'ai toujours aimé ça. Je suis vraiment contre la lecture imposée. On peut pas me dire, ben tu sais quoi, il faudrait que tu parles de ce livre, parce qu'en ce moment, c'est vraiment le livre qu'il faut absolument lire, c'est la saga qui fonctionne, etc. C'est vraiment ce que moi, j'ai envie de lire à l'instant T. Et après, je le présente si j'ai quelque chose à dire. Pendant longtemps, j'ai présenté toutes mes lectures, que ce soit les bonnes comme les mauvaises, parce que j'avais envie de les partager. Et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à manquer de temps. Ma vie, elle a pris un autre tournant. Et forcément, aujourd'hui, je vois mes lectures d'un œil différent. Et je me dis, j'ai plutôt envie de partager les lectures sur lesquelles j'ai réellement des choses à dire. J'ai envie de partager un message ou ce genre de choses, que juste les lectures un petit peu bof-bof, je saurais pas quoi dire dessus.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, en mode dimanche, hein. Je viens de rentrer d'une balade en forêt, j'ai les mains encore toutes froides d'ailleurs. Je me suis fait un petit thé, j'ai ma pile à lire devant moi de deux façons différentes, comme ça je suis sûre de rien oublier. Et bref, vous l'aurez compris, je vais vous présenter les livres.
Oui, vous le dites, Margot, ma vie a un tout petit peu changé. Est-ce que vous êtes à l'image de votre public, c'est-à-dire jeune adulte?
Oui, totalement. J'avais 21 ans et je sentais bien que les gens qui ont commencé à me suivre à ce moment-là avaient peut-être 16, 18 ans dans la moyenne. On peut bien sûr le voir dans les statistiques YouTube, etc., mais ça reste un chiffre. Et forcément, quand je reçois des messages, des commentaires de jeunes femmes qui aujourd'hui me suivent depuis 2011, forcément qu'en 2019, elles ont pris un petit peu de l'âge aussi. Donc, mon public continue à me suivre. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des jeunes qui commencent à me suivre maintenant. Et ils me reprochent en fait de pas lire, par exemple, de la littérature adolescente, de ne plus en lire. Et ils me demandent pourquoi j'en lis plus. Parce que tout simplement, moi-même, j'ai grandi et que le public en fait majoritaire qui continue à me suivre a grandi aussi. Et du coup, c'est normal que moi aussi, en fait.
Chers amis lecteurs et lectrices, aujourd'hui est un grand jour. Je vous annonce officiellement que la 8e édition du challenge Cold Winter va commencer.
Vous organisez également des challenges. On essaye d'engloutir un maximum de pages en très très peu de temps.
Oui, il y a aussi ce genre de challenge-là, notamment le plus connu, c'est le week-end à 1000. Donc, on se donne le challenge de lire 1000 pages en un week-end. Ça paraît beaucoup et pour certains, c'est très peu, bizarrement. Mais ça, c'est vraiment le côté communautaire. C'est-à-dire qu'on a des groupes Facebook qui existent là-dessus, on a des hashtags sur Instagram, on en fait des vidéos, on en fait des posts. Et le but, en fait, certes, c'est de lire, mais c'est aussi de partager et de se rendre compte que des fois, dans notre boulimie livresque, ben, en fait, on n'est pas tout seul. Ça rend la lecture moins solitaire. On a tout le temps cru que la lecture, c'était une passion solitaire, on est tout seul chez soi et juste voilà, en dégainant mon smartphone, je peux dire, ben, vous savez quoi, je suis en train de lire ça et c'est en train de me faire ressentir tellement d'émotions, c'est super réconfortant quoi en fait.
Et si vous préférez la lecture sans écran, l'époque est aussi au podcast pour enfants, un marché en plein boom, aperçu avec Virginie Langeroc.
Il en existe des dizaines, des centaines, et pour tous les âges, disons de 3 à 15 ans, puisqu'on parle des enfants, des histoires, bien sûr, qui vont stimuler l'imaginaire des jeunes oreilles, puisqu'elles recèlent de bruitages, de voix de comédiennes et de comédiens qui sont rompus à l'exercice, qui en rajoutent, qui jouent sur l'intonation, sur l'humour, et qui parviennent à embarquer les enfants, et les parents aussi, je peux l'avouer, dans des univers magiques. Et puis, il y a d'autres podcasts qui sont plus ancrés dans le réel, qui apportent des réponses à des questions tous les jours que les enfants se posent. Est-ce qu'il faut manger du poisson pour avoir une bonne mémoire? Pourquoi on dit allô quand on décroche au téléphone? Je vous laisse écouter.
Pourquoi les chiens aiment bien monter sur les canapés?
Je m'appelle Marie. Et j'ai 14 ans. Je veux plus à l'école depuis longtemps parce que je suis un petit rat de l'opéra.
Marie et le terrible monsieur Degas.
Les petites histoires de Telmi.
Les bulles de souhait. Bonnelan est une petite ville nichée en haut d'une colline. Chaque mois de novembre, enveloppée d'un manteau de feuilles flamboyantes, elle resplendit. Chaque rue se pare de décorations aussi délicates qu'enchanteresses.
C'est Oli. O-L-I.
Oui. La Bibli des petits.
Mais je suis pas petit.
Je suis grand.
Salut l'info.
Bonjour, c'est Estelle. Allez, installe-toi, c'est l'heure de ton Salut l'info avec le magazine Astrapi et France Info.
Ce journal est interdit aux plus de 11 ans.
Et cette semaine, une grève a débuté en France. On t'explique ce que c'est.
Voilà, ça on l'a entendu, c'est donc pour les moins de 11 ans. Et puis comme il y a des podcasts pour tous les âges, il y a aussi un choix qui est conçu pour les ados. Certains leur donnent la parole pour évoquer les émotions fluctuantes qu'on connaît, qui traversent dans les années collège, les phobies scolaires, tout ce qu'ils n'arrivent pas à dire à leurs parents. Bref, ça c'est le podcast miroir. Et puis il y a d'autres podcasts qui sont conçus comme une évasion, où on est embarqué dans une aventure, comme au cinéma, avec la voix, les bruitages. C'est vraiment comme un film, hein, les images en moins et l'imaginaire en plus.
Les Odyssées de France Inter.
Tu vas entendre une histoire pleine de mystères, de secrets et de rebondissements. Elle se passe au temps des mousquetaires, du grand roi Louis XIV, des canons qui font et des cachots. Ouh, qui ne sentent vraiment pas la rose.
Allez, fin de l'histoire pour aujourd'hui. Le condensé de l'époque se poursuit samedi prochain avec au menu des histoires.